Le prince des ténèbres.
Nous étions en automne. Un matin, je me rendis via Marchese Gualdi, car il fallait que je demande à M. Garamond l'autorisation pour passer commande à l'étranger des photos couleurs. J'aperçus Aglier dans le bureau de Mme Grazia, penché sur le fichier des auteurs Manuzio. Je ne le dérangeais pas. J'étais déjà en retard à mon rendez-vous. Notre conversation technique terminée, je demandai à Garamond ce que faisait Aglier au secrétariat.
« Lui, c'est un génie, » me dit Garamond. « C'est un homme d'une pénétration, d'un savoir extraordinaire. L'autre soir, je l'ai emmené dîner avec une poignée de nos auteurs, et il m'a fait faire excellente figure. Quelle conversation, quel style, gentilhomme de vieille race, grand seigneur. On en a perdu le moule. Quelle érudition, quelle culture, je dirais plus, quelle information. Il a raconté des anecdotes savoureuses sur des personnages d'il y a 100 ans, je vous jure, comme s'il les avait connus en personne. » Et savez-vous quelle idée il m'a donnée en revenant chez moi? Au premier regard, il avait aussitôt photographié mes hôtes. Désormais, il les connaissait mieux que moi. Il m'a dit qu'il ne faut pas attendre que les auteurs pourrisis dévoilés arrivent tout seuls. Peine perdue. Et manuscrits à lire. Et puis, on ne sait pas s'ils sont disposés à contribuer aux frais. En revanche, nous avons une mine à exploiter. Le fichier de tous les auteurs Manuzio des 20 dernières années. Vous comprenez? On écrit à ces vieux, glorieux auteurs à nous, ou du moins à ceux qui ont aussi acheté leur rossignol. Et on leur dit, cher monsieur, savez-vous que nous avons lancé une collection sapientiale et traditionnelle de haute spiritualité? Un auteur de votre finesse ne voudrait-il pas essayer de pénétrer dans cette terra incognita, etc., etc. Un génie, je vous dis. Je crois qu'il nous veut tous avec lui dimanche soir. Il veut nous conduire dans un château, une forteresse, je dirais plus, une splendide villa dans le Turinois. Il paraît qu'il s'y passera des choses extraordinaires, un rite, une célébration, un sabbat, où quelqu'un fabrique de l'or ou du vif argent ou quelque chose de ce genre. Tout un monde à découvrir, mon cher Cassobon. Même si vous savez que j'ai le plus grand respect pour cette science à laquelle vous vous consacrez avec tant de passion, et de plus je suis très très satisfait de votre collaboration, je sais, il y a ce petit réajustement financier dont vous m'avez touché un mot. Je ne l'oublierai pas. Nous en parlerons en son temps. Aglier m'a dit qu'il y aura aussi cette dame, cette belle dame, peut-être pas une splendeur, mais un type. Elle a quelque chose dans le regard. Cette amie de Belbo, comment elle s'appelle? Lorenza Pellegrini? Je crois. Il y a quelque chose entre elle et notre Belbo. Je pense qu'ils sont bons amis. Ah! Voilà une réponse de gentilhomme. Parfait, Cassobon. Mais ce n'était pas par curiosité. C'est que moi, pour vous tous, je me sens comme un père et... Glissons, à la guerre comme à la guerre. Adieu, cher.
Nous avions vraiment un rendez-vous avec Aglier. Sur les collines du Turinois, me confirma Belbo. Double rendez-vous. Première partie de la soirée, une fête dans le château d'un rose-croix cossu. Et après, Aglier nous emmènerait à quelques kilomètres de là, où se déroulerait à minuit, bien entendu, un rite druidique sur lequel il avait été très vague. « Mais je pensais, ajouta Belbo, que nous devrions aussi faire le point sur l'histoire des métaux. Et ici, nous sommes toujours trop dérangés. Pourquoi ne partons-nous pas samedi et nous passons 2 jours dans ma vieille maison, là-bas? C'est un bel endroit, vous verrez. Les collines valent la peine. Diotalevi est d'accord. » Et Lorenza vient peut-être. Naturellement, venez avec qui vous voulez. Il ne connaissait pas Lia, mais il savait que j'avais une compagne. Je dis que je viendrais seul. L'avant-veille, je m'étais disputé avec Lia. Ça avait été une bêtise et, de fait, tout se serait arrangé en une semaine. Cependant, je sentais le besoin de m'éloigner de Milan pendant 2 jours. Nous arrivâmes ainsi là-bas, le trio Garamond et Lorenza Pellegrini. Il y avait eu un moment de tension au départ. Lorenza s'était trouvée au rendez-vous, mais au moment de monter dans la voiture, elle avait dit « Je vais peut-être rester, moi. Comme ça, vous vous travaillerez en paix. Je vous rejoins plus tard avec Simon. » Belbo, les mains sur le volant, avait raidi les bras et, en regardant fixement devant lui, dit avec lenteur « Monte. » Lorenza était montée, et pendant tout le voyage, assise devant, elle avait gardé la main sur le cou de Belbo, qui conduisait en silence. L'endroit était encore le gros bourg que Belbeau avait connu pendant la guerre. De rares maisons neuves, nous dit-il. Une agriculture en déclin. Parce que les jeunes s'étaient déplacés vers la ville. Il nous montra certaines collines, à présent en pâture, qui avaient été autrefois jaunes de blé. Le bourg apparaissait soudain, après un virage, au pied d'une colline, où se trouvait la maison de Belbeau. La colline était basse et laissait entrevoir derrière elle l'étendue du mont Ferrat, voilée d'une légère brume lumineuse. Tandis que nous montions, Belbeau nous indiqua une petite colline en face, presque chauve, et à son sommet une chapelle, flanquée de deux pins.
« Le Bricot, » dit-il, puis il ajouta « Ça ne fait rien, si ça ne vous dit rien. On y emportait le goûter de l'ange, le lundi de Pâques. Maintenant, en voiture, on y arrive en 5 minutes, mais à l'époque, on y allait à pied, et c'était un pèlerinage. »